dernière fois, nous avons brièvement regardé la position de Saint-Irénée à travers son ouvrage « Contre les hérésies » et je vous ai montré combien Saint-Irénée cherche à répondre à la gnose, donc à cette hérésie qui prétend obtenir le salut par la connaissance et qui est obsédée, on pourrait dire, par le problème du mal et par l'origine du mal. Et j'aimerais que nous revenions très rapidement sur Saint-Irénée en lisant deux textes pour bien comprendre qu'il y a chez lui, comme je l'ai dit en terminant la dernière fois, une certaine place pour une vraie science de Dieu. Et ça, c'est important pour nous dans l'histoire de la philosophie, puisque c'est de voir comment, dans la perspective des pères de l'Église, en tout cas dans ce début de la, on pourrait dire, de la culture chrétienne, peu à peu les pères de l'Église intègrent l'importance d'une connaissance naturelle de Dieu qui se distingue de celle de la foi. Bien sûr, ceci se fait tout à fait progressivement. On a bien vu qu'au début, il y a d'abord un aspect apologétique, et ici, face à l'hérésie gnostique, on a envie de dire, ça oblige à préciser qu'il y a une certaine connaissance naturelle de Dieu, donc il y a un respect de l'intelligence à l'intérieur de l'attitude de foi chrétienne, et ceci va s'expliciter progressivement. Donc j'aimerais d'abord lire brièvement un texte de Saint-Irénée qui est tiré de l'Adversus Hereses, donc du Contre les hérésies, au livre 2. Voici le texte. Comment donc les anges, ou le démiurge, pouvaient-ils ignorer le Dieu suprême alors qu'ils étaient dans son domaine ? Qu'eux-mêmes étaient ses créatures, qu'ils étaient contenus par lui. Sans doute il pouvait leur être invisible à cause de sa transcendance, mais il ne pouvait leur être inconnu à cause de sa providence. Donc on voit bien distinction entre Dieu demeure invisible, c'est-à-dire nous ne pouvons pas comprendre la totalité ou l'étendue de son mystère. Et donc Saint-Irénée insiste ici sur la transcendance de Dieu, mais il n'est pas totalement inconnu. Et quelle est la raison que donne Saint-Irénée ? À cause de sa providence. Donc c'est important juste de retenir cela. Nous reviendrons sur cela avec beaucoup plus de précision, peu à peu, dans l'itinéraire de cette réflexion théologique à l'intérieur de la foi. Les choses vont peu à peu s'expliciter et se préciser. Alors, je continue encore un peu ce texte. Il pouvait être, comme les gnostiques le prétendent, immensément distant de lui. Mais puisque son domaine s'étendait jusqu'à eux, il ne pouvait pas ne pas connaître leur maître, il ne pouvait pas ignorer que celui qui les a créés est le Seigneur de toutes choses. Sa nature est invisible, mais elle est puissante, et elle fait voir et sentir vivement par toute âme sa transcendance toute puissante et souveraine. Donc on voit bien la providence de Dieu, c'est-à-dire la manière dont les choses sont conduites, selon un certain ordre, etc., nous donne au moins, d'après Saint-Irénée, le sens que on peut dire quelque chose de Dieu. Il n'est pas totalement inconnu. Bien plus tard, évidemment, des siècles plus tard, saint Thomas d'Aquin soulignera que il suffit de croire que Dieu existe et qu'il est bon pour ceux qui le cherchent pour obtenir le salut, parce que ceci contient implicitement tout l'ordre de sagesse du mystère de l'incarnation. Donc ceci est bien sûr un regard typiquement théologique dans la foi chrétienne. Mais on voit bien, la providence nous fait connaître quelque chose de Dieu, mais elle ne nous fait pas connaître totalement qui il est. Donc cette alliance, on pourrait dire la providence comporte une certaine présence, donc une certaine immanence de Dieu aux événements, à la conduite des choses. Et cependant, il transcende tout ce qu'on peut connaître de lui. Donc peu à peu se discerne, se distingue, cette distinction qui peu à peu sera explicitée, on peut affirmer quelque chose de Dieu, mais on ne peut pas concevoir ce qu'il est. Donc si je me situe sur le plan plus critique de la connaissance, c'est-à-dire comment pouvons-nous connaître ultimement une vérité sur Dieu, ce qui intéresse au premier chef les pères de l'Église évidemment, on distinguera le fait qu'on peut discerner, donc juger quelque chose, affirmer quelque chose de Dieu, mais sans pouvoir le concevoir, sans pouvoir appréhender ce qu'il est. La différence entre un jugement contemplatif et une connaissance conceptuelle. Ceci est très important. Bien sûr, chez saint Irénée, c'est encore extrêmement embryonnaire, mais on voit bien apparaître cela. Puis ceci va encore s'expliciter sur une distinction de niveau de connaissance entre la connaissance qu'on pourrait dire naturelle et la connaissance qui relève de la foi. Sans doute, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ni le Fils si ce n'est le Père, et ceux à qui le Fils l'a révélé. Donc ceci est une citation de l'évangile de saint Matthieu. Mais il est une chose que tous les êtres connaissent, à savoir, la raison dont sont douées les âmes les conduit là, leur révèle qu'il y a un Dieu, Seigneur de toutes choses. La raison, le mot qu'emploie ici saint Irénée, c'est le mot logos. Donc le logos des créatures spirituelles, dont les hommes sont doués, les anges, etc., leur permet de connaître qu'il y a un Dieu, Seigneur de toutes choses, mais ceci n'est pas la même chose que la connaissance qui relève de la foi, qui est la révélation de la très sainte Trinité, par le mystère du Christ, le Verbe incarné. Donc, on voit là aussi, donc je viens de distinguer, la distinction entre nous connaissons quelque chose de Dieu par sa providence, mais sa transcendance fait qu'il nous demeure inconnu, invisible. Et puis, la distinction se déplace un peu. La participation au logos par notre intelligence, ceci relève là aussi de la révélation. C'est en particulier dans le prologue de l'évangile selon saint Jean, le Verbe de Dieu éclaire tout homme venant en ce monde. Donc il y a un lien entre le mystère de Dieu et l'intelligence humaine. Mais ceci n'est pas la connaissance de foi. Donc on voit bien apparaître chez les pères de l'Église, peu à peu, en tout cas chez saint Irénée, c'est extrêmement éclairant, le refus d'un fidéisme. La foi nous donne une connaissance plus profonde, ultime, plus parfaite, plus élevée. Mais elle ne supprime pas le fait que l'intelligence humaine, parce qu'elle est esprit, le logos, a une certaine parenté avec celui qui est la source de tout esprit, Dieu, Seigneur de toutes choses. Donc, ceci est très intéressant à bien retenir. La foi ne supprime pas une certaine connaissance de l'intelligence humaine qui est capable de s'élever jusqu'à la sagesse. Donc on voit bien combien les pères d'Église, dès saint Irénée, comme je le rappelle, qui est au IIe siècle, on estime que saint Irénée est né vers 140 et mort vers 200 à peu près. Bon, saint Irénée nous montre combien, dans le contexte de la foi chrétienne, l'intelligence humaine demande d'être respectée à son niveau propre. Et ça intéresse évidemment le philosophe. Parce que ça nous montre d'emblée que la révélation surnaturelle de Dieu qui est reçue par la foi ne remplace pas ce dont l'intelligence humaine est capable. Je lis encore brièvement, pour conclure, un autre texte de saint Irénée qui est encore tiré, je pense, de l'Adversus Hereses, là c'est au livre 4, chapitre 6. C'est très bref. Déjà par la création, le Verbe, donc le Logos, révèle le Dieu créateur, et par le monde, le Seigneur ordonnateur du monde, et par l'ouvrage modelé, l'artiste qui l'a modelé, et par le Fils, le Père qui l'a engendré. Donc nous voyons bien, on pourrait dire, cette espèce de gradation, d'ordre. Le Verbe révèle le Dieu créateur dans la création. Le monde qui comporte le monde, pour les Grecs, c'est le cosmos. Il y a le mot Pan, le monde est un tout, c'est le mot Pan, le dieu Pan, l'univers est un tout, mais il est aussi cosmos parce qu'il comporte un ordre. Et donc, le monde, en tant qu'il est ordonné, révèle le Seigneur qui est source de cet ordre. L'ouvrage modelé, l'artiste qui l'a modelé. Donc là, on trouve l'analogie de l'artiste qui est présente dans l'Écriture sainte, dans la Genèse. Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol, etc. On trouve ça aussi dans Isaïe en particulier. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Seigneur, nous sommes l'argile et tu es le potier, donc nous sommes façonnés par toi, c'est-à-dire qu'on se sert de l'analogie de l'activité artistique, qui relève de la réflexion philosophique et de l'expérience humaine, pour dire quelque chose de ce que c'est que l'œuvre créatrice, l'activité créatrice de Dieu, qui agit à la manière d'un artiste. Cette analogie sera constamment présente dans toute la pensée chrétienne. Elle est présente déjà évidemment dans la philosophie grecque, chez Platon en particulier, dans le Timée, qui ne nous parle pas exactement de Dieu, mais du démiurge, et toute la question, les pères de l'Église vont, puis les grands théologiens médiévaux vont peu à peu purifier cette analogie en montrant sur quoi elle porte exactement. On voit bien que chez saint Irénée, c'est encore très, 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 j'allais dire brut. L'artiste qui modèle l'œuvre, l'œuvre dit quelque chose de l'artiste. Bon. Mais nous verrons comment peu à peu, dans la pensée chrétienne, ceci s'est explicité et affiné, pour bien distinguer ce qui relève de l'art humain. Dieu n'est pas un démiurge qui façonne une matière préexistante, ce qui serait une manière trop matérielle de transposer l'activité artistique. L'artiste coopère avec la matière, il n'en est pas la source. Il la choisit, mais il la travaille. Et donc, elle est avant son travail. Et on verra comment, peu à peu, dans toute la pensée théologique, on va purifier cette analogie de l'activité artistique pour montrer que Dieu ne coopère pas avec une matière préexistante. Et donc, son activité créatrice porte sur l'être en tant qu'être. Ce sera notamment le grand apport de saint Thomas d'Aquin dans son traité de la création. En montrant comment il y a bien une analogie avec l'art, mais qui porte sur un point précis. Et en tout cas, pas sur une transformation d'une matière préexistante. Et enfin, et ça relève proprement de la foi, nous retrouvons le texte de l'évangile de Matthieu et bien sûr le prologue de l'évangile de Jean, le Fils révèle le Père qui l'a engendré. Donc dans saint Matthieu, chapitre 11, verset 27, « Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc c'est toute l'économie de la révélation par le mystère de l'incarnation. Et puis dans l'évangile de Jean, dans le prologue, le Fils éternellement est dans le sein du Père. Et saint Jean, nous souvenons, termine son prologue par cette affirmation « Dieu, personne ne l'a jamais contemplé ». Mais le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. C'est lui qui l'a explicité, littéralement. Et donc, on voit bien cette espèce d'ordre très profond. La création, le Créateur, l'ordre du monde, celui qui est source de cet ordre, donc Dieu qui est source de toute chose dans sa sagesse, parce que la sagesse est source d'un ordre. L'œuvre qui fait connaître l'artiste, le Fils qui fait connaître le Père. Donc, ceci, est bien sûr, n'est qu'une brève évocation de la pensée de saint Irénée, mais ça vaut la peine d'essayer de le connaître et de découvrir combien, peu à peu, la réflexion des pères de l'Église a assumé toute une pensée philosophique, notamment dans ce respect de l'intelligence humaine. Alors, j'aimerais aujourd'hui brièvement aborder maintenant la position d'Origène. Origène, c'est toute l'école qui, à la fois, vient d'Alexandrie, mais qui va être confrontée notamment à travers son ouvrage Contre Cels, qui est aussi une polémique, on pourrait dire une apologétique chrétienne, la manière d'assumer toute l'écriture. Bien sûr, ce qui est très intéressant chez Origène, c'est de lire ses commentaires scripturaires, notamment son commentaire de l'évangile de Jean, auquel saint Thomas d'Aquin a beaucoup puisé, ainsi qu'a d'ailleurs au commentaire de saint Augustin, celui de saint Jean Chrysostome, etc. Mais Origène a commenté l'évangile de Jean, hein. Il a commenté, il y a des homélies d'Origène sur le Cantique des Cantiques, etc. Donc ces commentaires scripturaires sont tout à fait extraordinaires, hein. Et si on avait le temps, il faudrait bien sûr se pencher sur cela. Mais il y a un ouvrage qui le rend très célèbre, et qui est d'ailleurs écrit tout à fait à la fin de sa vie, hein, qui s'appelle « Contre Cels ». Cels est un philosophe païen, hein, qui attaque le christianisme, et donc en montrant notamment que le christianisme s'adresse à des imbéciles. Hein. Et donc Origène va montrer que, de quelle manière, au contraire, le christianisme assume, hein, toute la pensée antique, et notamment la position de Platon. Alors, Origène se trouve un peu à la jonction de deux mondes. Hein, et il va être un peu celui qui cherche à faire, au fond, à poser ce problème. D'une part, il est héritier de Clément d'Alexandrie, dont il a été le disciple, hein, et de la position de saint Justin, donc toute la position alexandrine, hein, qui est très marquée par la philosophie grecque, en particulier la position de Platon. Et donc une vision, on pourrait dire, hein, très intellectuelle de la foi, comme tout de suite, nous sommes au-delà du devenir, hein, nous ne sommes pas liés aux contingences du monde physique, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, nous ne sommes pas... nous méprisons souverainement le caractère éphémère des fleurs, n'est-ce pas ? Donc la position platonicienne. Et puis, l'héritage qui vient d'Irénée, et qui est très profondément biblique, est marqué par la figure du Christ. Et donc, un interprète d'Origène a eu cette formule tout à fait intéressante. Origène a dû résoudre le problème le plus grave de la théologie chrétienne, à son époque, faire place à la théologie juive de l'histoire à côté de la philosophie platonicienne de la vie éternelle. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a bien ici une problématique tout à fait typiquement chrétienne. La position platonicienne consiste à s'abstraire du devenir, de la matière qui pour Platon est non-être, donc à mépriser, pourrait-on dire, hein, la contingence historique, et au contraire, l'héritage biblique nous montre des événements. L'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, et on a vu en abordant saint Justin combien c'est une position d'ailleurs qu'on trouve chez les pères d'Église, notamment de façon assez prolongée, hein, combien les livres bibliques, les événements du peuple d'Israël, l'histoire de Moïse, etc., sont très importantes. Il y a une économie de la révélation. Donc, c'est bien Origène qui, le premier, d'une certaine façon, va, on pourrait dire, expliciter la relation entre la théologie et l'économie. La théologie, connaissance contemplative de Dieu, le logos au sujet de Dieu, et l'économie, la manière dont Dieu gouverne les choses. Oikia, c'est la maison, nomos, c'est la loi, la règle, c'est la manière dont Dieu gouverne sa maison. On peut ici faire allusion notamment à l'épître aux Hébreux. Si Moïse a été dans la maison de Dieu comme serviteur, le Christ l'est comme fils. Donc cette espèce d'économie de la révélation, c'est-à-dire comment dans l'histoire du peuple d'Israël, puis par l'événement de l'incarnation, Dieu a conduit les choses dans un ordre des événements en se révélant progressivement. Et là, il y a bien un devenir, hein, ce qu'on a appelé beaucoup plus récemment, évidemment, hein, l'histoire du salut. Et cette thématique, nous la retrouvons jusque aujourd'hui. C'est un des grands thèmes de la théologie du XXe siècle, notamment dans la discussion entre catholiques et protestants, que de réfléchir sur l'ordre et la distinction entre la place de la métaphysique en théologie, puisqu'on parle de Dieu. Et donc on ne peut pas projeter sur Dieu la manière d'être de l'homme. Il faut donc une philosophie qui ne se réduise pas à une anthropologie à la manière de Kant, c'est-à-dire qui réfléchisse uniquement sur les limites de l'homme, mais ça suppose une intelligence capable de dépasser le mode humain. Et d'autre part, de ne pas mettre de côté, comme cela a été trop fait dans certaines scolastiques, évidemment, le caractère historique, avec notamment toute l'importance de l'exégèse et des sciences historiques qui ont montré face au modernisme qu'il y a bien des événements historiques qu'on peut vérifier par l'archéologie, par la littérature, par la culture d'Israël, etc. C'est notamment tout ce qu'a fait l'école biblique de Jérusalem, et qui est une réponse apologétique à la négation de la dimension historique de la révélation. Et qui, d'une certaine façon, vient aussi de toute une position, on pourrait dire, comme on l'a appelée, extrinsèciste, c'est-à-dire qui, au fond, bâtit une espèce de théologie en dehors de toute référence à l'écriture. Et puis l'écriture est juste une petite décoration. On cite des textes comme ça nous arrange, dans une interprétation totalement subjective. Ce qui, d'ailleurs, engage une vie chrétienne menée comme une spiritualité subjective. Alors que ce qui est capital pour la foi, c'est l'enracinement dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est donnée à travers des instruments. Isaïe, Jérémie. Alors évidemment, je ne rentre pas ici dans toutes les questions historiques. Qui est Isaïe? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a trois? Bon, etc. Ce n'est pas le sujet ici. Mais c'est bien. Voilà. Et ça, le problème du rapport entre la capacité de parler de Dieu. Et donc, la parole de Dieu a un contenu de vérité sur Dieu dans son mystère. Et d'autre part, ceci s'est réalisé à travers une histoire, à travers des hommes précis, à travers un homme qui est Dieu, le Christ. Et je ne peux pas mettre cela de côté. Et donc je dois réfléchir sur ce que c'est que l'économie de la révélation. Pourquoi Dieu conduit-il les choses de telle et telle et telle façon ? Que signifie dans la conduite de Dieu l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament qui prépare le mystère du Christ ? Que signifie la venue du Christ à tel moment ? Et que signifie, après le Christ, ce qu'on appelle classiquement le temps de l'Église ? C'est-à-dire, il y a une nouvelle économie parce que le Christ, comme le dit l'Épître aux Hébreux, vient au terme de l'histoire. Donc il y a un rapport à l'histoire différent, et qui est très important même pour toute la pensée philosophique européenne, enfin occidentale, moderne, qui va réfléchir sur une philosophie de l'histoire qui en fait ne peut se comprendre qu'après une théologie du gouvernement divin. Il n'y aurait pas de philosophie de l'histoire, comme Kant l'a développé, Hegel, etc., et ensuite les visions idéologiques comme celle du marxisme. Le marxisme est une philosophie de l'histoire, mais qui est un messianisme. C'est-à-dire, on arrive à une fin, et c'est par le travail et la praxis que l'homme va conquérir son bonheur, son salut. Ceci ne se comprend pas en dehors d'un héritage théologique chrétien. Parce que pour la foi chrétienne, le Christ vient au terme de l'histoire, c'est dans l'Épître aux Hébreux, c'est dans l'Épître aux Galates en particulier. En cette fin des temps, en ces temps qui sont les derniers, etc. L'eschatone, parce que Dieu s'est fait homme, la révélation est close. Et en ce sens, c'est bien l'enseignement de la foi chrétienne, il n'y a plus de révélation nouvelle à attendre après le Christ. Il y aura un désenveloppement du contenu de la révélation, une explicitation de tout ce que le Christ est, puisqu'il est Dieu, mais non pas une révélation comme si quelque chose était supérieur au Christ. Évidemment, ceci est typiquement la foi chrétienne, puisque cela repose sur l'adhésion de foi au mystère de la divinité du Christ. Donc, Origène est le premier qui se trouve confronté à ce problème, mais qui, j'allais dire, le porte dans sa personne, puisqu'il est à la fois disciple de Clément d'Alexandrie, donc héritier de toute la grande position de l'école d'Alexandrie qui assume le platonisme, et puis le contact avec le peuple juif. Quand on lit le Contre-Cels d'Origène, on voit bien qu'il argumente en permanence à partir de l'écriture et qu'il montre la relation entre le judaïsme et le christianisme. C'est permanent. Et ceci, eh bien, le problème qui est le sien. Bien voir la relation entre les deux. Alors, de Clément d'Alexandrie, il a reçu ce fait, qu'on a déjà évoqué précédemment, que la philosophie apparaît comme une propédeutique à la foi chrétienne. Je voudrais simplement lire ici un texte de Clément d'Alexandrie. C'est dans C'est dans les Stromates de Clément d'Alexandrie, et la référence précise, c'est 1, 5, 28. La sagesse, pardon, avant la venue du Seigneur, la philosophie était indispensable aux Grecs pour les conduire à la justice. Maintenant, elle devient utile pour les conduire à la vénération de Dieu. Elle sert de formation préparatoire. Le mot grec, c'est propaideia, donc une éducation préliminaire. On pourrait dire, oui, enfin une propédeutique, c'est précisément la transcription littérale du mot grec propaideia. Une propédeutique, la philosophie est une propédeutique. Aux esprits qui veulent gagner la foi par la démonstration. La philosophie est un travail préparatoire. Elle ouvre la route à celui que le Christ rend ensuite parfait. Alors, il y a ici une question que je soulève, je ne vais pas la traiter aujourd'hui, mais c'est ça que l'histoire du christianisme nous montre en particulier. Comment penser cette relation? Qu'est-ce que c'est que cette préparation? Est-ce que ça signifierait que la foi exige d'abord d'être philosophe? Bien sûr, ceci est contraire à ce que c'est que la foi. Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que c'est le fait que la philosophie éduque l'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond, et donc la rend intelligence plus profondément humaine, parce qu'elle est ordonnée à la vérité, et donc disposée à s'ouvrir à la vérité qui vient de la révélation de Dieu? Donc, je pose la question, qu'est-ce que c'est exactement que cette propédeutique? Est-ce que c'est dans le contenu? Comment penser ça? Elle ouvre la route à celui que le Christ rend ensuite parfait. Il n'y a certes qu'une route vers la vérité, mais elle est comme un fleuve intarissable vers lequel débouchent les autres cours d'eau venus d'un peu partout. Donc on voit bien, Clément d'Alexandrie voit la révélation comme un grand fleuve qui conduit à la vérité, mais qui entraîne dans son courant, on pourrait dire, tous les affluents qui contribuent à la vérité, en particulier la philosophie. Alors, précisément, il dit ceci encore, et ça c'est dans, même chose, les Stromates, livre 1, 32-4, pardon, livre 1, 5, 32-4. La philosophie éveille l'esprit, le mot grec c'est « nous », suscite une sagacité chercheuse de la philosophie véritable. Et donc, cette sagacité, on pourrait dire cette manière dont l'intelligence s'oriente vers la sagesse, dans ce qu'elle a de plus profond, dispose à accueillir la vérité de la foi. Donc, c'est de ce Clément d'Alexandrie qu'Origène est disciple. Et donc, on retrouve chez Origène ce sens très profond que la philosophie est une propédeutique, une disposition à la foi. On retrouve ça chez Origène de façon très claire. Et cependant, nous allons le voir, je vais lire un texte dans un instant, Origène va bien souligner que l'intelligence par elle-même ne suffit pas. Il faut le secours de Dieu. Pour Origène, et nous retrouvons ici un thème que j'ai déjà évoqué en particulier à propos de Saint Justin, la philosophie qui va venir au service de la vérité de la foi comme une propédeutique aide à expliciter le double rôle qui est celui du docteur, de celui qui enseigne. Et ça, nous retrouverons ça constamment jusque dans la théologie médiévale. Nous avons déjà évoqué ça à propos de Saint-Justin, mais nous retrouvons ça chez Origène, c'est extrêmement clair, c'est constamment présent dans le Contre-Cels. D'une part, on a besoin de l'intelligence pour détruire l'erreur. Donc l'erreur à laquelle s'attaque Origène, c'est celle de Cels, qui a écrit un ouvrage que nous n'avons plus qu'à travers la réponse d'Origène, mais il y a des citations qui font des lignes et des lignes, où Origène cite Cels, et il répond point par point. Et donc, détruire l'erreur en montrant combien c'est inacceptable. Nous allons lire deux textes qui vont nous le montrer très concrètement. Et puis, deuxième, on pourrait dire, fonction de la théologie, c'est non seulement détruire l'erreur, mais établir la vérité. Alors, pour illustrer cela, je voudrais lire maintenant trois textes d'Origène tirés du Contre-Cels. Le premier, c'est au chapitre 3 du Contre-Cels, chapitre 44, paragraphe 44. Le thème de ce passage, c'est le lien entre le christianisme et la sagesse. Donc nous sommes en plein dans notre sujet. Cels rapporte les propos absolument contraires à l'enseignement de Jésus, tenus par un tout petit nombre de soi-disant chrétiens, non spécialement intelligents, comme ils le croient, mais des plus ignorants. Et là, il cite le livre de Cels. Voici leur mot d'ordre. Donc ça, c'est une citation de Cels. Arrière, quiconque a de la culture, quiconque a de la sagesse, quiconque a du jugement, autant de mauvaises recommandations à nos yeux. Mais se trouve-t-il un ignorant, un insensé, un inculte, un petit enfant qui l'approche hardiment? En reconnaissant que de tels gens sont dignes de leur Dieu, ils montrent bien qu'ils ne veulent et ne peuvent convaincre que les gens niais, vulgaires, stupides, esclaves, bonnes femmes et jeunes enfants. Donc voilà, ça c'est Cels. Et on voit bien, caricature de l'affirmation du Christ, je te rends grâce, bon, une des affirmations de Christ, je te rends grâce, Seigneur du ciel et de la terre, car ce que tu as caché ça aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits. Donc, il faut être complètement crétin pour être chrétien. Le chrétien, c'est celui qui dit, venez à moi, les niais, les vulgaires, les bonnes femmes et les enfants. Venez, c'est vous les imbéciles. Bon. Donc, Cels attaque ça en disant, le christianisme, finalement, n'attire que les crétins et qui rejette l'intelligence. Donc ça sous-entend, l'intelligence est inutile. On n'en a rien à faire des savants, il faut s'occuper des pauvres. Voilà. Et on connaît ce genre de discours, il existe jusqu'à aujourd'hui, ça continue de courir les sacristies. Alors, à cela je réponds, dit Origène. Si, malgré l'enseignement de Jésus sur la continence, citation de l'Évangile, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur comme il adultère avec elle, on voyait parmi tant d'autres quelques soi-disant chrétiens vivre dans la débauche, on aurait bien raison de les blâmer pour leur vie contraire à l'enseignement de Jésus. Mais ce serait fort déraisonnable de faire porter sur l'Évangile le blâme qu'il mérite. Donc c'est très habile. Origène fait un raisonnement. Si un chrétien qui commet l'adultère, ça ne veut pas dire que l'Évangile est pour l'adultère. C'est la faute de ce chrétien. Donc il n'est pas vraiment chrétien. Il est pécheur. Mais Jésus n'a jamais enseigné qu'il fallait pratiquer l'adultère. De même, dit Origène, si l'on constate que la doctrine chrétienne, plus que toute autre, invite à la sagesse, il faudra blâmer ceux qui, pour justifier leur ignorance, allèguent non point les propos écrits par Cels, car on n'en trouve pas d'aussi éhontés, même dans la bouche des simples et des ignorants, mais d'autres de bien moindre importance, capables de détourner de la pratique de la sagesse. Donc, les chrétiens qui affirment qu'il n'y a pas besoin de l'intelligence et que la foi suffit et que l'Évangile c'est pour les pauvres, les imbéciles et les crétins, eh bien ça c'est des faux chrétiens, parce que le Christ n'a jamais dit cela. Donc oui, on voit bien, interprétation de l'Évangile. Alors précisément, Origène poursuit au paragraphe 45, donc on voit réfuter l'erreur, et maintenant qu'est-ce que le Christ a vraiment dit ? Le Logos entend que nous soyons sages. C'est très beau. Il commence par Jésus. C'est contraire à l'enseignement de Jésus. Et puis, il nous parle maintenant du Logos. Le Christ, Jésus, c'est le Logos de Dieu. Et le Logos entend que nous soyons sages. Le Christ n'est pas celui qui invite à la bêtise, puisqu'il est la lumière née de la lumière. Donc, au contraire, il entend que nous soyons sages. Et on peut le montrer soit par les anciennes écritures juives dont nous gardons l'usage, donc l'Ancien Testament le montre déjà, donc on voit bien qu'Origène n'est pas du tout martionniste. L'Ancien Testament fait partie de la Révélation. Soit aussi par celles qui sont postérieures à Jésus, dont les Églises reconnaissent l'inspiration divine. Or, il est écrit au 50e psaume que David dit dans sa prière à Dieu « Tu m'as révélé les secrets et les mystères de ta sagesse ». Et en lisant les psaumes, on trouve ce livre rempli d'un grand nombre de sages doctrines. De plus, Salomon demanda et obtint la sagesse, Et de sa sagesse, on peut reconnaître les marques dans ses écrits, quand il enferme en peu de mots une grande profondeur de pensée. On y trouverait, entre autres, nombre d'éloges de la sagesse et d'exhortations sur le devoir de l'acquérir. On se rappelle, hein, les livres des Proverbes, le livre de la sagesse, le livre de l'Ecclésiaste, etc. Hein. Donc tous ces livres sapientiaux de l'Ancien Testament se servent bien de l'analogie de la sagesse et invitent à l'acquérir. Et telle était même la sagesse de Salomon, que la reine de Saba, ayant appris sa renommée, la renommée du Seigneur, vint le mettre à l'épreuve en lui posant des énigmes. Elle lui dit tout ce qui était dans son cœur. Et Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut pas une question qui resta cachée au roi, sur laquelle il ne fournit pas de réponse. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon. Ça, c'est des citations de l'Écriture. Hein, et toutes ses ressources. Et hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'est donc la vérité que j'ai entendu dire dans mon pays, sur toi et sur ta sagesse. » Je n'ai pas voulu y croire quand on m'en faisait part, avant de venir et de voir de mes yeux. Et voici qu'on ne m'en avait pas dit la moitié, tu surpasses en sagesse et en intelligence et en magnificence tout ce que j'ai appris par ouï-dire, etc., etc. Alors, un peu plus loin, hein, à propos du Nouveau Testament, le Logos entend si bien qu'il y ait des sages parmi les croyants que pour exercer l'intelligence des auditeurs, il a exprimé certaines vérités sous forme d'énigmes, d'autres en discours obscurs, d'autres en paraboles, d'autres en questions, etc. Donc, on voit bien, hein, c'est un argument que reprendra exactement saint Thomas. Pourquoi le Christ s'est-il exprimé sous forme de paraboles? Pour susciter la réflexion de notre intelligence et aussi pour masquer aux incroyants la vérité de Dieu. Autrement dit, nous retrouvons ici un thème qui vient de Clément d'Alexandrie, mais que Origène assume, hein, il est besoin du Logos pour parler de Dieu, même à l'intérieur de la foi, parce que Dieu est Logos. Donc, je ne vais pas plus loin pour le moment. Hein, il suffit de continuer à lire pour revenir au livre écrit après Jésus, etc. On trouverait que les foules de croyants écoutent les paraboles comme si elles étaient au dehors et seulement dignes des doctrines ésotériques. Mais les disciples reçoivent en particulier l'explication des paraboles. Donc, il y en a qui se contentent d'écouter bêtement et qui ânonnent comme des ânes. Et puis, il y a le vrai disciple qui veut l'explication de la parabole. Autrement dit, le Christ nous enseigne de façon à susciter notre intelligence, notre recherche de la vérité. Alors, c'est peu à peu hein, que s'explicitera de quelle manière l'intelligence humaine peut expliciter ce qui relève de la foi. Je lis encore un autre texte. Là, c'est dans le livre 3 du Contre-Cels. Non, pardon, le livre 6, mais dans l'édition des sources chrétiennes, c'est le tome 3. Et livre 6, chapitre, paragraphe 12. Je passe à une autre accusation de Cels. Il ne connaît même pas nos textes. Mais par suite de méprise, nous accuse de soutenir que, citation, la sagesse humaine est folie devant Dieu. Donc, citation de Cels. Alors que Paul dit « La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. » Celle s'ajoute « La raison de cette maxime a été dite depuis longtemps, d'après lui, la raison qui nous fait tenir ce langage est la volonté d'attirer les seuls gens incultes et stupides. » Mais comme il l'a noté lui-même, il en a déjà parlé plus haut, et j'ai répondu de mon mieux à l'argument, c'est ce qu'on vient de lire. Il n'en a pas moins tenu à montrer que nous l'avions imaginé, ou emprunté aux sages de la Grèce, disant qu'autre est la sagesse humaine, autre est la sagesse divine. Il cite même deux passages d'Héraclite, l'un où il dit « Le caractère humain n'a pas de pensée, le divin en a », et l'autre, Marmot, « L'homme s'entend appeler ainsi par le génie comme l'enfant par l'homme ». Il cite en outre l'apologie de Socrate par Platon. « Quant à moi, Athénien, ce n'est à rien d'autre qu'à la sagesse que je dois ce nom qu'on me donne. Mais de quelle sorte cette sagesse ? Celle-là même qui est sans doute une sagesse humaine, réellement oui, il y a des chances que cette sagesse je la possède. » Voici les citations de Cels. J'y ajouterai, etc., etc. Bon. Et puis, Origène répond, au paragraphe 13, « Il y a donc, d'après Platon, une sagesse divine et une sagesse humaine. La sagesse que nous appelons sagesse de ce monde est folie devant Dieu. La sagesse divine, qui diffère de l'humaine, puisqu'elle est divine, survient par une grâce de Dieu, qu'il accorde à ceux qui se sont préparés convenablement à la recevoir, et surtout à ceux qui, reconnaissant la différence d'une sagesse à l'autre, disent dans leur prière, etc. » Donc on voit bien, hein, on voit bien comment Origène répond à celle-ci en distinguant deux sagesses. La sagesse humaine, c'est celle que la philosophie grecque nous transmet. la sagesse divine que nous sommes capables de recevoir par la lumière de la foi. Et celle-ci, nous ne sommes pas capables de la posséder par nous-mêmes, mais nous prions Dieu de nous la transmettre, de nous la donner. Et là, Origène cite un passage du livre de la Sagesse, chapitre 9, verset 6. « Y eut-il quelqu'un de parfait parmi les enfants des hommes, sans la sagesse qui vient de toi, on le comptera pour rien. » Nous affirmons, et on retrouve là ce que j'ai dit tout à l'heure, « La sagesse humaine n'est qu'un exercice de l'âme, la divine en est la fin. » Elle est présentée comme la nourriture solide de l'âme dans le texte. « La nourriture solide est pour les parfaits, eux qui, par l'habitude, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Et ça, c'est une citation de l'Épître aux Hébreux. Donc on voit bien, Origène se sert de l'Écriture et apporte une précision en respectant le rôle de la philosophie qui, comme j'ai dit il y a un instant, demeure, comme pour Clément d'Alexandrie, une propédeutique, une préparation. Enfin, je lis un passage extrêmement célèbre qui est au livre 7 du Contre-Cels, paragraphe 41, c'est dans le volume 4 de l'édition des Sources chrétiennes, page 109, et puis ensuite page 115. Je lis ces deux brefs passages pour qu'on voit bien le climat de la pensée d'Origène. C'est donc un paragraphe consacré à la théologie ancienne et platonicienne. Qui donc Cels veut-il nous voir suivre pour ne point manquer de guide ancien et de saint personnage? Il faut l'examiner. Donc, Cels, qui est païen, dit que ça suffit de suivre Platon. Il nous renvoie aux poètes inspirés selon lui, aux sages, aux philosophes, sans donner leur nom. Malgré sa promesse de nous montrer les guides, il se borne à indiquer en général les poètes inspirés, les sages, les philosophes. S'il avait cité les noms de chacun d'eux, il pourrait sembler logique de lui opposer que, pour induire en erreur, il nous donne comme guide des hommes aveugles par rapport aux vrais, ou sinon tout à fait aveugles, du moins dans l'erreur sur bien des doctrines de la vérité. Entend-il donc par poète inspiré Orphée, Parménide, Empédocle, Homère lui-même ou encore Hésiode ? Libre à chacun de montrer comment ceux qui suivent de tels guides marchent dans une voie meilleure et ont plus de secours dans les difficultés de la vie que ceux qui, grâce à l'enseignement de Jésus-Christ, ont dit adieu à toutes les images et statues et même à toute la superstition judaïque et qui, par le Logos de Dieu, lèvent leur regard vers Dieu seul, le Père du Logos. » Donc on voit bien. De quoi Cels parle-t-il exactement ? Donc revenons au texte et regardons de quelle manière ceux qui sont guidés par Homère ou Hésiode marchent pour résoudre les difficultés de la vie. Et comment répond celui qui est guidé par l'Évangile ? Donc on voit bien, on a cet argument chez Origène, qui est chez beaucoup de pères de l'Église, la philosophie la plus parfaite, en réalité, c'est celle que le Christ nous enseigne dans l'Évangile. Bien sûr, elle ne se ramène pas à une seule philosophie, mais elle assume un contenu philosophique parce qu'elle comporte une vérité humaine. Autrement dit, la vérité de la foi surnaturelle porte en elle-même une vérité humaine, puisqu'elle répond notamment à la question du salut, à la question du bien et du mal, à la question de pourquoi la souffrance, etc. Quels sont donc les sages ou philosophes auprès desquels Cels veut nous faire apprendre maintes vérités divines ? Il veut nous faire abandonner Moïse, le serviteur de Dieu, les prophètes du Créateur de l'univers, qui véritablement inspirés ont dit tant de vérités. Il veut nous faire abandonner celui-là même qui a illuminé le genre humain, annoncé la voie de la véritable piété, qui, autant qu'il dépendait de lui, n'a laissé personne sans participation à ses mystères, qui, au contraire, dans l'excès de son amour pour les hommes, peut donner aux esprits plus intelligents une conception de Dieu capable d'élever l'âme au-dessus des affaires d'ici-bas, qui néanmoins condescend à venir en aide aux pauvres moyens des hommes ignorants, des simples femmes, des esclaves, bref, de ceux qui n'ont de secours de personne, sinon de Jésus seul, pour leur faire mener une vie meilleure autant que possible, avec les doctrines qu'ils ont pu recevoir sur Dieu. Donc on voit bien, Origène, et là c'est quelque chose qu'on retrouvera là aussi, tout au long de la patristique et des théologiens médiévaux, le Christ s'adresse aussi bien à ceux qui sont plus intelligents, et alors il leur donne de s'élever une conception de Dieu plus profonde que ce que donne la seule philosophie grecque, qui malgré tout comporte des confusions. Et d'autre part, il ne méprise pas pour autant les gens ignorants ou simples qui trouvent en lui, donc on trouve ici la dimension de la miséricorde, le seul véritable secours pour conduire leur vie. C'est un argument qu'on retrouvera exactement le même, quoique explicité de façon plus précise, dans le premier article de la Somme théologique de saint Thomas. La révélation s'adresse par la foi à l'intelligence, et cependant, parce que nous sommes sujets à l'erreur, la foi est aussi une miséricorde qui nous enseigne une vérité que nous pourrions découvrir par nous-mêmes. On voit bien cette... Alors ensuite, justement, Origène cite Platon et répond à celle sur Platon, et puis je voudrais lire, pour conclure, ce passage très très beau. Elle est assurément sublime et non point méprisable, la sentence de Platon. Mais vois si la divine écriture ne représente point avec un plus grand amour de l'humanité le Dieu Logos qui était au commencement auprès de Dieu, se faisant chair pour que pût parvenir à tous les hommes le Logos dont Platon dit qu'une fois découvert, le dire à tous est impossible. Ah, ça c'est magnifique. Platon nous dit... On peut dire quelque chose de Dieu, mais on ne peut pas le dire à tous. Il y a quelque chose d'incommunicable. Donc il y a une sorte d'élitisme. En devenant chair, le Logos, quoique inaccessible, s'est adressé à tous. Libre à Platon de dire, découvrir l'auteur et le père de cet univers est laborieux. Il laisse entendre qu'il n'est pas impossible pour la nature humaine de découvrir Dieu comme il le mérite. Ou sinon comme il le mérite, du moins davantage et mieux que la foule. Si c'était vrai, et que Dieu eût été réellement découvert par Platon ou l'un des Grecs, il n'aurait vénéré, appelé Dieu, adoré rien d'autre, soit en l'abandonnant, soit en lui associant des choses incompatibles avec sa majesté. Autrement dit, la pensée grecque, quoique touchant des vérités très profondes, charrie encore certaines confusions, dit Origène. Nous tenons, nous, que la nature humaine ne se suffit, et c'est là ce qui est explicitement très important chez Origène, nous tenons, nous, que la nature humaine ne se suffit en aucune façon pour chercher Dieu et le découvrir avec pureté, à moins d'être aidé par celui qu'on cherche. Donc le thème de la pureté, c'est typiquement du Platon. Dieu qui est pur ne peut être atteint que par les purs, c'est dans le Timée. Et Origène dit, mais alors Platon lui-même, est-ce qu'il n'a pas laissé dans sa pensée des choses qui sont incompatibles avec ce qu'il dit de Dieu? Donc il faut le secours de Dieu, être aidé par celui qu'on cherche, pour aller plus loin que ce dont la seule nature humaine est capable. Et il est découvert par ceux qui avouent, après avoir fait ce qu'ils pouvaient, qu'ils ont besoin de lui. Il se manifeste à ceux à qui il juge raisonnable d'apparaître, dans la mesure où il est naturellement possible à Dieu d'être connu de l'homme, et à l'âme humaine toujours dans le corps, de connaître Dieu. Donc l'homme doit faire tout ce qu'il peut, et ensuite à celui qui le désire. Donc la philosophie comme propédeutique éduque l'esprit et l'ouvre à un désir d'une sagesse plus profonde encore. Il se manifeste à ceux à qui il juge raisonnable d'apparaître, dans la mesure où il est naturellement possible à Dieu d'être connu de l'homme et à l'âme humaine toujours dans le corps de connaître Dieu. On ne peut pas voir Dieu tel qu'il est, mais autant que Dieu peut le communiquer et autant que l'âme humaine est capable de le connaître. Voilà le rôle de la sagesse théologique à l'intérieur de la foi. Alors, etc. Je ne fais que... bien sûr, brièvement évoquer cette position d'Origène, mais qui est très importante et qui a marqué ensuite toute la tradition théologique, notamment au Moyen-Âge.